Notre temps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoilà mardi avec entre votre compagnie pendant une heure. Voilà, et ce sera notre dernière avant des vacances où il y aura des rediffusions. Bonjour Lou.
Bonjour Catherine, bonjour tout le monde.
Voilà, voilà, comment ça va Lou?
Bah écoute, super, et toi?
Oui, hein, avec un petit croche là à l'entrée, mais
ouais,
bon.
Ouais, je me suis un peu emmêlée les pinceaux.
Oh bah peut-être que ça s'est emmêlé tout seul, hein.
Faut dire savoir
que dans les studios, ça a été aéré, donc ça va, c'est vivable, mais c'était une période, la semaine dernière, assez invivable.
Hein. Ah oui, c'était terrible. Hein.
Ouais, je pense que dans tous les corps de métier, dans tous les endroits, on a eu une canicule qui était à marquer dans les annales. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir en notre compagnie Lucille, qui est en woofing à Ralentir pour vivre. Et puis, bah, je vais te laisser te présenter parce que je ne vais quand même pas parler à ta place, Lucille. Hein.
Bonjour Catherine, bonjour Lou, bonjour à tous. Oui, donc effectivement, je suis en woofing à l'association Ralentir pour vivre, donc avec Catherine. Et puis, alors j'ai 26 ans, j'habite à Lyon et j'ai fini mes études il y a maintenant 2 ans et demi presque. J'ai fait du dessin et j'ai fait un master de cinéma d'animation. Et c'est un milieu qui a un petit peu de mal en ce moment. Enfin, c'est un petit peu compliqué pour les nouveaux diplômés. Donc, j'ai voulu essayer autre chose. Après avoir un peu galéré à trouver du travail, je suis partie en service civique en Irlande où j'ai fait quelque chose de complètement différent. Et ça m'a plu. Et puis, je suis rentrée en France après parce que j'avais un peu envie de rentrer chez moi. Et depuis, je suis illustratrice. Mais bon, c'est un peu difficile. Ouais. Et donc, j'ai voulu découvrir autre chose. Et c'est pour ça que je suis partie en woofing.
Voilà, intéressant. Là, il y a un petit souci, Lou, je pense, de son. Il n'y a pas de retour. Peut-être qu'il y a quand même un retour ailleurs. Voilà, là, ça va mieux.
Oui, ça doit être mieux, là.
Voilà. Voilà, chères auditrices et auditeurs, peut-être vous n'entendiez pas bien. Si, c'est bon, voilà, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Alors, nous sommes toujours dans le même sujet, l'épuisement. Et puis, le vrai sujet est de savoir, alors je me suis piqué une petite pointe de curiosité cette semaine et j'ai tapé, comme je le fais d'habitude sur Internet, comment réagissent les jeunes face au burn-out et à vraiment cette situation qui commence à être, on va dire, assez prégnante dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont touchés et qui ont un petit problème avec un contexte. Est-ce qu'on pourrait parler de ça comme ça? Surtout, Lucille pourrait nous dire qu'il y a un contexte quand même émotionnellement assez pressant, assez oppressant.
Oui, je pense qu'en fait, alors personnellement, je n'ai pas fait de burn-out, je ne me suis jamais trouvée dans cette situation, mais je pense qu'au-delà de l'épuisement au travail, dû au travail, il y a aussi le contexte tout autour du monde du travail et du rapport qu'on a au monde du travail qui doit aggraver la situation, en tout cas rajouter des conditions qui, je pense, rendent l'épuisement encore plus encore plus probable, on va dire.
Oui, c'est ça. Ce qui m'intéressait avec l'expérience de Lucille, quand elle m'a parlé de ça, elle est arrivée hier, hein, donc on n'en a pas parlé pendant heures.
C'est tout nouveau.
Voilà, c'est tout nouveau. C'est le contexte, parce que on a bagarré hein, ces derniers temps avec l'histoire du profil. Alors le profil, c'est quoi un profil? C'est être dans un contexte, quelque part. Parce que tu as fait un service civique, Lucille, en Irlande.
Oui, je suis partie en Alliance française. Donc, c'est des associations locales, mais il y en a un peu partout dans le monde. Et c'est des écoles de langue, en fait, pour les locaux qui veulent apprendre le français. Et c'est aussi des centres culturels. Et je suis allée là-bas, j'ai travaillé à la médiathèque de celle de Dublin. Donc, c'est une assez grosse structure.
Oui. Et puis, tu venais de me dire, là, hors antenne, avec une personne qui te chapeautait, qui était bien en burn-out.
Oui, oui, c'était ça. Donc, ça a été un peu compliqué parce que... Enfin, j'avais plein de collègues et j'étais entourée, mais c'est vrai que ma tutrice était en burn-out. Donc, c'était... je crois que c'est la première fois où je suis allée dans le monde du travail et je suis confrontée à quelqu'un qui ne pouvait pas être là, en fait, parce que physiquement et mentalement, c'était pas possible.
Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le contexte dans lequel on est, le contexte avec lequel on se trouve et où on se trouve confronté. Et c'est quand même très compliqué parce que, quand on est jeune comme ça et qu'on va déjà dans le marché du travail, il y a déjà une pression qui est de la famille quand même. Parce que la famille, on en discutait en venant. Eh bien oui, pourquoi elle ne trouve pas du travail? Elle ne fait pas de demande? Pourquoi? Pourquoi? Mais il n'y a plus de travail maintenant. Alors, comment on fait pour trouver du travail quand il n'y en a plus, hein? C'est un peu le problème.
Oui, alors moi, j'ai de la chance. Ma famille n'est pas du tout comme ça. Bon, ils sont très, très compréhensifs.
Bon, c'est bien. Parce qu'alors là...
Mais c'est des choses que plus que je vois sur Internet ou que j'entends des amis qui me disent. Après, c'est les générations... Déjà, la génération de mes parents, oui, mais c'est les générations aussi d'avant, où on en parlait avant de venir, que c'est des générations qui n'ont pas vraiment connu la situation où chercher du travail pendant des mois et des mois sans trouver, c'est possible. C'est même courant. Et donc, ils ne comprennent pas trop pourquoi on ne trouverait pas. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on n'est fondamentalement pas du tout en train de chercher, alors que si on cherche et que ce n'est pas du tout reposant comme activité de chercher du travail tout le temps.
C'est ça. Et là, on va écouter une petite audio du burn-out des jeunes diplômés, parce que c'est quand même, je dirais, sans être totalement dans le burn-out, c'est quand même une phase et une période qu'on doit traverser qui est quand même stressante, quelque part.
Il t'est déjà arrivé de te sentir très fatigué, voire complètement submergé par ta charge de travail? Et ce, même si tu viens seulement de commencer à travailler, ou que t'es en stage ou en alternance? Ne t'inquiète pas, ça peut arriver. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les situations de burn-out ou de détresse psychologique sont loin d'être réservées aux travailleurs âgés. Ils peuvent aussi concerner les jeunes en début de carrière ou en stage. Pire encore, des études récentes montrent que ces situations de burn-out peuvent survenir de plus en plus tôt, et même bien avant l'âge de 30 ans. Je t'explique. Pour te montrer un peu l'ampleur du phénomène, je vais te citer un chiffre. Selon un baromètre réalisé en novembre 2023, 55% des moins de 29 ans seraient affectés par une situation de détresse psychologique au travail. Ça fait beaucoup. Et surtout, ça représente une moyenne supérieure à la moyenne observée pour l'ensemble des salariés interrogés. On a posé la question à plusieurs expertes, et elles nous ont toutes répondu la même chose. Les jeunes diplômés sont autant, voire plus, à risque que les autres salariés pour les situations de burn-out ou de surmenage au travail. Mais comment on explique ça ? Déjà, l'épuisement que peuvent ressentir les jeunes diplômés peut tout simplement découler d'un rythme ou d'une charge de travail intenable. Beaucoup de jeunes, en début de carrière, cherchent à faire leurs preuves. C'est normal, on passe tous par là. Le problème, c'est que souvent, cela peut amener à des situations où le jeune travailleur n'ose pas dire non à son manager. Il se retrouve donc avec des tâches qui s'accumulent et des journées à rallonge. Pire encore, les jeunes diplômés peuvent être confrontés à un syndrome de l'imposteur qui les pousse inconsciemment à vouloir en faire trop, tout de suite. Dans certaines professions, comme dans l'enseignement, le journalisme ou certains métiers du médico-social, il peut aussi être assez difficile de couper avec le travail. Souvent, ces métiers confrontent le travailleur à un aspect humain important et des missions prenantes psychologiquement. Il arrive qu'une charge mentale s'installe même en dehors des horaires de travail. Et à terme, elle peut conduire à une forme d'épuisement. Autre facteur important, l'essor de messageries pro du type Teams ou Slack avec la généralisation du télétravail. Elles ont certes fluidifié les échanges au quotidien, mais elles ont aussi facilité les débordements sur la vie personnelle. Résultat, elles peuvent contribuer à fragiliser l'équilibre entre vie pro et vie perso. Bon, et puis il est important de rappeler que certains managers peuvent aussi abuser de leurs jeunes salariés en leur confiant des missions trop nombreuses. Ou bien, en profitant de leur sentiment d'illégitimité en leur imposant une pression psychologique. Mais je te rassure, il est possible d'éviter tout ça. D'abord, par l'organisation. En apprenant à prioriser tes missions et à découper ton temps de travail en fonction. Mais aussi par l'anticipation. Selon l'experte qu'on a interrogée, il est indispensable de prendre conscience de sa charge de travail et d'avoir des éléments factuels et chiffrés à présenter à son manager lorsqu'il nous sollicite sur une mission ou une tâche en plus. Elle conseille même de noter le temps qu'une tâche vous a prise une fois effectuée pour avoir un recul précis sur votre charge de travail. Si le sujet t'intéresse ou que tu as d'autres questions, n'hésite pas à aller consulter notre article. Il est disponible sur le site de l'étudiant, l'étudiant.fr. Et n'oublie pas de t'abonner.
Voilà, chères auditrices et auditeurs. Donc, les jeunes diplômés sont à risque. Parce qu'effectivement, quand on trouve un job, on va se donner à fond. Tu vois un peu le retour.
Oui, ça me paraît normal de vouloir, surtout quand on est au début, vouloir faire ses preuves et puis être content finalement d'avoir trouvé du travail, surtout si c'est un domaine dans lequel qu'on a choisi, dans lequel on avait envie de s'engager. Je trouve ça parfaitement naturel de se donner, d'essayer de se donner à fond, même si après c'est une approche du travail qui se discute. Il y a des gens qui sont vraiment dans le « ah oui, au travail, il faut se donner à fond, il faut donner 120 %». Moi, je ne suis pas forcément dans cette idée-là. Je pense que... Mais ça vient aussi d'une discussion qu'on peut avoir avec d'autres générations qui ont d'autres conceptions du travail. Le travail, ce n'est pas toute la vie aussi. Donc, c'est bien d'en faire beaucoup au travail. Mais ça peut aussi être bien de prendre un peu de recul, de lever le pied, de se dire je travaille parce que, oui, j'aime bien ce que je fais, mais je n'ai pas envie de structurer toute ma vie autour du travail, même si c'est quelque chose qui me plaît. Et ça, c'est encore une conversation sur le travail, mais qui est un peu annexe à celle-là.
Oui, mais c'est intéressant de voir, que, justement, c'était mon questionnement, de voir la réaction des jeunes par rapport au contexte actuel, par rapport à ce qu'on vit. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, c'est-à-dire que, un jeune de diplômé, il se trouve un job, et puis le patron, il se dit, voilà un bon citron à presser, et il l'écrase sous le travail. Et là... le jeune, comment est-ce qu'il va réagir? Ça va pas être simple.
Oui, et puis surtout que si dans notre situation actuelle où c'est difficile de trouver du travail, on n'a pas forcément envie de trop protester parce que si c'est très compliqué de retrouver du travail, on n'a vraiment pas envie de mettre celui qu'on a en danger. C'est ça. Donc, il faudrait mieux pas trop faire de vagues parce que après, si tu remets de nouveau 9 mois, 1 an à retrouver du travail. Il vaut mieux rester là où on est, finalement.
Oui, mais alors là, c'est là où on voit l'ambiguïté de la situation. L'ambiguïté est l'ambiguïté du management qui profite de cette situation. C'est certain que c'est malsain, c'est pas sain du tout. C'est quelque chose qui est au-delà de, je dirais, de la cohérence entre l'humain, ses capacités, et l'humain, ce qu'on lui demande. C'est pas cohérent. Uniquement le fait que c'est sa première expérience, on a un bon poisson, on l'a bien ferré, et puis maintenant, on l'utilise bien. C'est quand même, c'est limite, quoi. Et puis, on a en face de soi quelqu'un qui est devant son rêve. Non, là, on va écouter Suzanne, parce que c'est bien aussi.
D'abord, il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça. Le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes? Car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu. Je t'accuse, c'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su. Je t'accuse. N'existe pas, pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, où faudrait faire nous-mêmes? Car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu. Je t'accuse, c'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su. Je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. T'accuse pour celle qui avait t'avais prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. J'assume.
Voilà, chères auditrices et auditeurs, je trouve que cette chanson, elle est à plusieurs reprises parce que là, elle parle de la, je dirais, de la violence qui est faite aux femmes, on est d'accord, mais on peut aussi parler de la violence qui est faite aux humains à travers le marché du travail, à travers tout ce qu'on exige et à travers toutes ces servitudes qu'on nous a auxquels on nous a habitués, et ces besoins qu'on nous a créés, est-ce vraiment des besoins? Ça, c'est la grande question. Oui, Lou, tu sais, je n'ai plus de téléphone, je n'ai plus de WhatsApp, je n'ai plus rien du tout. Et depuis 2 jours, je me rends compte qu'en fait, c'est le grand bonheur.
Ah bah, tu m'étonnes, hein, on est quand même vachement dépendant de nos petits appareils électroniques. Hein, ah, je le sais, hein, moi aussi, je suis entièrement dépendante de mon téléphone. Et en ce moment, mon ordinateur est en panne, je me sens un petit peu toute nue.
Oui, mais d'un autre côté, je trouve que tout reprend de la couleur autour.
Peut-être aussi, oui.
Parce que du fait que on n'a plus les yeux là-dessus, on a les yeux ailleurs. C'est un peu ce que je me dis. Voilà. Donc, alors, oui, comment les jeunes peuvent réagir à l'heure actuelle? Alors, je pense que ce qui me paraît sain, avec tous les woofers que j'ai vus passer, et entre autres, toi, tu as un master en audiovisuel, mais il y avait des masters en droit, en économie, j'ai tout vu en sciences politiques, j'ai vu aussi des étudiantes en médecine, enfin, de toutes sortes, à chaque fois. Ces personnes argumentaient la même chose. Elles avaient envie de faire des micro-breaks dans leur vie pour voir d'une autre façon. Voilà.
À tes souhaits, Catherine.
Oui, j'ai pas fait de bruit, mais il y a eu de la chaleur et du froid. Oui, comment ?
C'était très silencieux comme éternuement.
Oui, j'ai pas voulu vous ennuyer, chères auditrices, auditeurs. Donc, vous voyez que nous sommes dans le dernier, avant les vacances. On a besoin de vacances, Lou, tu crois ?
Oui, je pense qu'on a tous besoin de se ressourcer un petit peu.
Ah oui, je pense. Et puis là, avec Lucille, on en est avec les petits fruits qui sont tout brûlés. Mais enfin, on a des petites occupations qui sont, on va dire... pour ça, ne serait-ce que le fait, elle est là depuis hier, mais c'est une personne avec laquelle je suis très à l'aise parce qu'elle est cool. Très cool. Alors ça, c'est plaisant. Hein.
J'ai un peu l'impression de voir la moi du futur.
Avant ?
Oui, un peu.
Ah, alors écoute, t'as démarré sur les chapeaux de roue en arrivant hier.
J'ai l'impression qu'on a le même tempérament.
Ah oui ? C'est-à-dire ?
Oui, si tu l'as bien décrit, cool.
Cool, voilà.
Enfin, pas de... Oui, ouais, enfin, tranquille, quoi.
Tu te prends pas la tête, quoi.
Non, j'aime pas me prendre la tête. J'ai pas la capacité physique et mentale à me prendre la tête, honnêtement,
Alors, pour en revenir avec les jeunes, je pense, dans tout ce que j'ai entendu, que les jeunes seront de plus en plus avec prise de recul par rapport à la situation, aux environnements. Il y a de plus en plus de prise de recul, de dire, oui, vous nous demandez quelque chose, mais ce n'est pas vraiment faisable, alors on va essayer de se débrouiller autrement ou différemment, ou en tout cas, ne plus envisager la vie comme le travail, c'est... la chose essentielle de la vie. Non, il faut effectivement avoir une vache à lait, hein, c'est ce qu'on dit un peu, pour pouvoir vivre. Oui,
faut vivre, mais c'est un peu difficile de mettre tous ses espoirs, toutes ses attentes dans le travail, se dire que c'est le plus important, alors que l'état du monde ne nous donne pas vraiment envie, enfin, ne nous donne pas vraiment la possibilité de se projeter.
Oui, c'est ça.
Très loin. C'est quand on voit l'état du monde, avec le réchauffement climatique, c'était la canicule, donc c'était...
Oui,
bien, il y a eu un super exemple. Moi, j'ai passé une semaine entière à me dire que c'était vraiment difficile de se projeter et que, j'aimerais beaucoup trouver du travail pour arrêter d'être aussi désœuvrée, mais vu comme le monde est à l'extérieur, on se dit que... Est-ce que le travail est forcément la solution, telle qu'on nous dit, quelle est la solution? Je ne sais pas.
Non, je pense que là, il y a des questions à se poser. Et maintenant, on va écouter une petite pause musicale. C'est...
Grand corps malade. Allez, on se lance ça.
Avec la chaleur, tout le monde est réticent.
Je venais de poser mon stylo et de fermer les paupières. Je pensais éteindre mon cerveau en éteignant la lumière. Mais mon stylo et mon cerveau se sont vite réunis. Ils me conseillent de me relever, car j'en ai pas encore fini. J'en ai pas encore fini avec le texte du jour. J'ai des rimes plein les joues qui valent peut-être le détour. Alors je me relève cette nuit, demain et après-demain, avec l'expérience d'un daron et l'enthousiasme d'un gamin. J'en ai pas encore fini avec l'envie d'écrire, car quand le monde va trop vite, y'a que ça qui m'aide à ralentir. Quand mon cerveau constate, c'est mon stylo qui comprend, qui sait prendre du recul, noircir la page en m'éclairant. Mes textes savent lire en moi, même dans les moments de brouillard, et chaque phrase est une lampe torche sur ce que je n'ose pas voir. J'écris pour compenser l'impuissance de voir ce qui brûle autour, pour contrer nos silences face à ceux qui crient au secours. J'écris enfin et surtout pour partager nos chairs de poule, pour que nos solitudes se reconnaissent au milieu de la foule, que nos émotions fassent équipe plein de sourires interactifs, et que la scène devienne un grand battement de cœur collectif. J'en ai pas encore fini avec la nostalgie, la fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie. Face à tout ce bonheur passé, j'essaie de pas rester spectateur, et je me bats comme un taré pour que l'avenir soit à la hauteur. J'en ai pas encore fini avec mes combats silencieux, ceux qui se cachent derrière les sourires et les projets ambitieux, ceux qui me répètent heure par heure que grand corps malade, c'est pas juste un nom d'artiste mais des galères en cascade. Y a des souffrances qu'on partage et souvent je tends la main, mais y a des blessures égoïstes et des épreuves sans témoin. Alors je fais le dos rond, je m'endurcis, je me rassure, et je serre tellement les dents que mes silences sont des morsures. Mais j'en ai pas encore fini avec ce putain d'optimisme, il me colle à la peau même dans les moments les plus tristes. Mon optimisme est mal élevé, il ouvre tout le temps sa gueule, dans chacun de mes albums il veut être le premier single. Mon optimisme rattrape souvent là pour compenser, il dévie les chemins tracés et les destins qu'on pensait. Quand je ne vois que les murs gris pendant les jours pluvieux, mon optimisme interpelle et me dit « attends, regarde mieux ». Alors je vois des vies cachées, des œuvres d'art, des arcs-en-ciel. Derrière tout l'ordinaire, j'arrive à voir le potentiel. Ça fait tellement longtemps que j'ai choisi d'y croire, que mes espoirs ont pris racine et font pousser des fleurs bizarres. J'en ai pas encore fini avec l'envie de dire merci, ce mot qui paye pas de mine et qui crée des éclaircies. J'en offre avec franchise aux inconnus et aux proches. En merci, je suis paradin, j'en ai toujours plein les poches. Dire merci fait des miracles, la gratitude est un pouvoir. Si tu ne savais pas, essaye un peu juste pour voir. Ça ouvre des portes et des sourires pendant 2 secondes ou 6 mois. Et quand tu le vérifieras, n'hésite pas, remercie-moi. J'en ai pas encore fini avec l'envie de faire des vannes, dans les soirées, les enterrements, dans les joies et les drames. Ce petit diable sur mon épaule qui me souffle des conneries. Depuis longtemps, je fais attention, je répète pas tout ce qu'il me dit. J'en ai pas fini avec l'amour et le privilège d'être amoureux. Pour donner du sens à la vie, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux. Alors j'aime sans compter, sans prévoir, à l'air libre. C'est le seul vertige qui m'aide à garder l'équilibre. J'en ai pas encore fini avec l'envie de comprendre, avec l'envie d'apprendre, avec l'envie d'entreprendre. J'en ai pas encore fini avec l'envie tout court. Tant qu'elle frappe dans ma poitrine, je me dis que c'est encore mon tour. L'envie de lancer des projets, c'est une envie qui répare et qui transforme tous les parcours de vie en ligne de départ. L'envie de prendre des risques, d'essayer comme un crève la faim. J'en ai pas encore fini, j'en aurai pas encore fini, même à la fin.
Voilà, chères auditrices et auditeurs, eh ben non, on n'en a pas encore fini. On n'en a pas encore fini et dans ce cadre-là, j'aimerais qu'on écoute quelque chose qui me paraît intéressant. Ça va être en 3 fois, mais non, oui, c'est ça. Des petites interventions de jeunes étudiants sur Internet.
Depuis voilà. Quelques années, des chercheurs observent que le burn-out touche également les étudiants. Selon la Haute Autorité de Santé, un burn-out, c'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail. En gros, si ta batterie physique, émotionnelle et mentale se vide sans jamais vraiment se recharger, elle finit par s'user et te mener au burn-out. Ce n'est donc pas seulement un petit coup de mou parce que tu n'as pas envie d'aller en cours. Le burn-out, c'est un épuisement qui dure et qui peut parfois se combiner avec des maladies psychologiques sévères comme la dépression. C'est une vraie maladie. Selon une étude menée en 2022 par la chercheuse française Aline Van Soutersted, le burn-out scolaire toucherait 15,6% des lycéens. Plusieurs facteurs expliquent ce chiffre, comme des emplois du temps chargés, donc un épuisement cognitif et une baisse des capacités de concentration et de mémoire, ou encore la peur de ne pas être à la hauteur, nourrie par une recherche constante d'excellence et la crainte de l'échec. Attention quand même, seul un médecin peut diagnostiquer un burn-out et apporter des solutions concrètes.
Alors oui, c'est un thème qui est emprunté au monde du travail et on parle d'épuisement nerveux professionnel, en fait en français, plus que burn-out. Et c'est exactement la même histoire, on a exactement les mêmes manifestations, un peu les mêmes causes, les mêmes symptomatologies. Et pourquoi on peut parler de burn-out ? Parce que pour les jeunes, sachant que c'est professionnel normalement, parce que finalement, leur vie d'enfant à l'école, c'est on leur demande de faire leur métier d'enfant, leur métier d'élève, et donc ils ont cette même pression même s'ils devraient pouvoir jouer et pas toujours être soumis à cette pression. Mais on retrouve exactement les mêmes manifestations, les mêmes causes, les mêmes symptômes que chez les adultes. C'est de la fatigue. C'est de la fatigue nerveuse. Donc, vous avez des enfants qui sont épuisés au retour de vacances, alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et il y a un truc. Qui sont irritables, qui se mettent à pleurer pour un rien, qui sont ronchons, qui vous disent 2 plus 2, ils ne savent même plus combien ça fait, qui ont perdu leur cerveau. Là, on se pose la question. Là, on se pose la question directement. Il faut les écouter. Il faut les écouter.
Chères auditrices et auditeurs, c'est là que je voulais en venir. Il faut écouter les jeunes. Il faut écouter les jeunes parce que même si ça ne se présente pas avec des symptômes identiques du burn-out professionnel, c'est quand même un épuisement. Et commencer sa jeunesse avec ça, comment as-tu vécu, toi, tes études, par exemple, Lucille ?
Moi, j'ai adoré mes études. J'ai trouvé ça vrai. Alors, j'avais beaucoup de travail. Mais j'étais contente de le faire parce que c'était quelque chose de... Après, les études artistiques, ça peut aussi être spécial dans le sens où c'est vraiment... là, on sent vraiment que c'est un choix personnel parce qu'on est peu à être poussé vers des études artistiques par les parents, contrairement à d'autres qui peuvent peut-être se retrouver dans des filières parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire ou parce qu'ils ont été poussés par leur famille ou pression sociale de faire droit, trouver un travail, être médecin, je ne sais quoi. Moi, ce n'était pas comme ça. Donc, j'ai fait du dessin. Et puis ensuite du cinéma d'animation, et c'était vraiment un choix personnel. Oui. Et j'étais très très contente de pouvoir le faire. Vraiment, je le referais.
Oui, ben voilà. Alors déjà, une belle expérience, c'est au moins faire ce qui nous passionne. Mm-hmm. Ça a du sens, ça avait donc tout son sens, donc tu les as vécues bien, tes
oui,
études.
Oui, surtout, alors j'ai beaucoup aimé les premières années, mais le master en particulier, parce qu'on faisait des choses variées, j'ai pu découvrir plein de choses. Et puis la dernière année, on était encadrés, mais pour faire un projet personnel. Donc en fait, j'allais à l'école et je pouvais travailler sur mon film avec des profs qui étaient là pour m'aider. Mais j'étais en train de travailler sur quelque chose pour moi et pour l'école. Et en même temps, il y avait un stage et il y avait un diplôme. Donc il y avait de l'enjeu. Mais vraiment, c'était un super... Il y a des moments où je me disais, ah, c'est super, j'y vais. Et aujourd'hui, je vais pouvoir faire ce que je veux. C'est l'idée un peu idéalisée qu'on se fait du travail quand les gens disent « Ah, t'as un métier passion. » Le métier passion, il ressemble pas à ça. Les études jusque-là, enfin, ça se passe pas pour tout le monde pareil. Hein. C'était difficile, c'était une école qui en demandait beaucoup et il y a certains élèves pour qui c'était vraiment compliqué. Mais personnellement, je l'ai très bien vécu, donc c'était très chouette.
Mais c'est pour ça que maintenant, tu es si bien avec toi-même quand même par rapport à ce que tu viens de vivre. Parce que 2 ans sans trouver de poste de travail, c'est quand même quelque chose de compliqué à vivre. Mmh. Mais on peut pas dire que ça se voit sur ton visage, voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Je ne sais pas, Lou, ce que tu en penses, mais on ne peut pas dire qu'elle a l'air stressée comme jeune fille.
Non, elle a l'air même très épanouie.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est un bon exemple de dire au moins, de toute façon, ça va être difficile parce qu'on a eu des étudiants qui étaient en sciences politiques, qui avaient de la facilité à trouver des emplois, mais qui s'étaient tellement donnés dans quelque chose qui n'avait plus grand sens. Ben, Léa, typiquement Léa qui est venue il y a 15 jours, Léa qui explique qu'elle a fait des études de droit. Elle a fait un master en droit, très bien. Et puis, non, elle a fait une licence en droit. Et puis après, à la fin de sa licence, ça avait tellement plus de sens pour elle. Elle n'en pouvait plus. Là, elle va refaire un master en gestion de l'environnement. Alors, parce que ça commencerait à avoir du sens pour elle. Puis, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais tu sais, d'avoir fait droit avant, c'est peut-être bien, parce que si tu as envie de vivre dans des endroits décalés comme ça, ils seront tout contents d'avoir quelqu'un qui connaît le droit, parce que dans ces milieux-là,
J'essaie aussi de me dire quand même que, et de le dire autour de moi, ok, on peut avoir l'impression d'avoir fait quelque chose qui n'a pas de sens, mais les expériences ne sont jamais vraiment perdues.
Non.
C'est pas comme si tu avais gâché, enfin, tu peux pas gâcher des années de ta vie. Si tu fais quelque chose, tu as appris plein de choses et puis ça peut servir. Tu sais jamais.
Non, exactement. Et toi, tu ne sais jamais. Tu vas peut-être rentrer et au mois d'août, ça y est, tu as une lettre qui t'envoie quelque part.
Ah,
ouais, voilà. Et qu'est-ce que tu en sais ? On n'en sait rien.
Non, mais c'est fatigant.
Oui. Alors, là, voilà. Alors, il y a quand même, cet instinct de survie en faisant du woofing, ça t'a quand même sorti un peu de la fatigue dans le sens que ça te permet quand même de vivre autre chose, une autre expérience.
Oui, que d'être parqué dans un appartement en pleine canicule.
Oui, c'est ça. Puis les offres d'emploi, on sait qu'en juillet, août.
Regardez, il y en a, mais c'est pas.
Ouais. Il n'y en a pas énormément.
Il
n'y
en a pas énormément.
Non, il n'y en a pas énormément. Donc là, on se rend compte qu'en fait, la population jeune est beaucoup plus touchée qu'on ne l'imagine. Et là, on va écouter quelque chose qui m'a vraiment... Parce qu'en fait, ça commence très, 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 très jeune. Et là, il nous parle du burn-out scolaire, parce que c'est un nouveau mot. On n'imaginait même pas que ça pouvait exister.
Le burn-out est un terme utilisé pour décrire un syndrome d'épuisement professionnel. La plupart du temps, cette expression est utilisée pour parler de personnes adultes. Mais depuis quelques années, des chercheurs ont observé que le burn-out pouvait également toucher des jeunes dans tes âges, au collège ou au lycée. Ainsi, selon une étude menée entre 2021 et 2022, le burn-out scolaire toucherait environ 15% des lycéens. Le burn-out des adolescents n'arrive pas d'un seul coup. Il s'agit en réalité d'un processus qui va affecter ta santé mentale et physique. Différents symptômes peuvent alors s'exprimer sur la durée. En plus de signes d'épuisement, tu peux éventuellement exprimer des signes de désinvestissement et de désintérêt, de dévalorisation, d'isolement, d'anxiété, de dépression, de phobie scolaire, ou bien avoir des troubles du sommeil. Des symptômes qui peuvent toucher tous les jeunes à un moment de leur vie. Mais pour certains, cela peut se transformer en véritable burn-out scolaire. Les élèves avec des troubles de l'apprentissage, troubles 10 par exemple, des difficultés scolaires ou une mauvaise estime d'eux-mêmes sont davantage susceptibles d'être touchés. À long terme, le burn-out impacte donc ta qualité de vie et ta santé mentale et peut aussi avoir des conséquences sur ton parcours scolaire. Si le burn-out commence à toucher des adolescents, c'est que la pression scolaire est de plus en plus importante, expliquent les chercheurs. Notamment au lycée, avec les différentes réformes, l'arrivée de la plateforme pour l'orientation appelée Parcoursup, avec ses incertitudes, mais aussi les emplois du temps surchargés. La quête de l'excellence qui caractérise le système scolaire français génère stress et angoisse chez les adolescents, qui s'inquiètent pour leurs futures études et leur avenir. Ce système fait que tes enseignants et tes parents, souvent sans s'en rendre compte, peuvent également faire peser une forte pression sur tes épaules. Il reste difficile aujourd'hui de diagnostiquer un burn-out scolaire, qui est différent d'une phobie scolaire ou d'une dépression, mais peut parfois générer l'un ou l'autre. Néanmoins, si tu ressens un stress important par rapport à l'école, ou si tu te sens démuni, épuisé ou angoissé face à ta charge de travail, que tu n'arrives pas à trouver un équilibre entre temps de travail, activité et repos, que la pression est trop forte pour toi, le mieux est d'en parler rapidement à un adulte de confiance, dont tu sais qu'il prendra le temps de bien t'écouter. Parents, enseignants, infirmières scolaires, CPE. Parfois également, aller voir un psychologue ou un psychiatre pour parler de ses angoisses peut aider. Même si cela n'est pas toujours facile, le mieux pour éviter un burn-out scolaire est de parler rapidement autour de toi de tes émotions, tes craintes et ta fatigue pour trouver une solution avec ton entourage.
Oui, chères auditrices et auditeurs, vous avez bien entendu, ça commence très jeune et c'est peut-être pour ça que ce sujet, ça fait 2-3 fois que j'essaye de le remettre sur le tapis et plus, parce que prévenir me paraît nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser, nous sommes dans un monde d'excellence. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en plus, le fait que les enfants puissent toucher 15% des adolescents, c'est énorme.
Oui, oui.
C'est énorme, on se faisait la réflexion. D'un autre côté, je ne suis pas très surprise, dans le sens où l'école, ça peut devenir... C'est énormément de pression. Ça peut être énormément de pression. En fait, c'est un moule dans lequel il faut rentrer, l'école. Et il y a des gens qui rentrent très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé aller à l'école, mais j'avais beaucoup de chance. Mes parents, ils ont pu m'aider beaucoup. Ils étaient très investis. mais on ne rentre pas tous dans le moule et c'est normal et ce n'est pas grave. Le problème, c'est que l'école ne fait pas vraiment de place. L'école ne peut pas, n'a pas les moyens de faire la place.
J'aime bien quand tu dis n'a pas les moyens. Voilà.
Oui, ma mère travaille dans l'éducation nationale.
Oui, donc tu sais de quoi tu parles.
Voilà, mon frère aussi travaille dans l'éducation nationale.
Ils n'ont pas les moyens d'intervenir.
Non, ils n'ont pas les moyens d'intervenir et de faire en sorte que chaque enfant puisse avoir le soutien dont il a besoin. Et puis, il faut savoir aussi, les enfants et les adolescents, ils ont très peu de contrôle sur leur vie.
Oui.
Donc, c'est quand on devient adulte, même quand on est étudiant, déjà, on a beaucoup plus quand même de possibilités de liberté, de mouvement. Donc, il y a du burn-out, mais ça ne m'étonne pas qu'il y en ait aussi à l'école parce que c'est quelque chose de très... Ils sont très contraints. Dans la vie de tous les jours, il faut aller à l'école, il faut faire les devoirs. Et puis, comme l'école en France, c'est de longues heures. On a beaucoup de vacances, mais c'est des longues journées. Ouais. Ils n'ont pas énormément d'activités en dehors.
Et puis, ils en ont bien assez pour ne plus avoir de temps.
C'est ça. Et ils ont finalement moins de temps pour être un peu plus libres.
Oui.
Et entre eux, et donc ça ne peut pas aider, forcément.
Oui, au début de cette année, nous sommes de nouveau allés dans l'école, dans une école de... d'apprentissage ou des jeunes d'apprentis. Et quand je disais à ces jeunes, vous savez, il y a 15% qui sont en burn-out, ce qui veut dire que vous êtes 20 devant nous, il y en a 3 de vous qui êtes en burn-out. Et ça s'est révélé juste parce que quand on a fini la séance d'information, on avait des jeunes qui attendaient que tous les autres soient partis, évidemment, qui venaient nous voir en disant « Madame, moi, je suis un psychiatre qui m'a dit que j'étais en dépression, mais quand j'entends ce que vous m'avez dit, ce que c'est exactement que le burn-out, j'ai été en burn-out. Mmh. » Un autre qui m'a dit, ben oui, moi, j'ai un patron d'apprentissage qui est en burn-out. Alors, il me fait faire, sous prétexte qu'il est complètement au taquet et tout, il me fait faire 60 heures par semaine. Or, qu'apprenti, ce n'est pas ça.
Comme ça, donc, c'est toi qui es en burn-out après.
Voilà. Donc, ça fait presque peur. Et puis, ben, dans les jeunes maintenant, en tout cas dans ceux qu'on a vus, on a parlé à peu près une centaine d'élèves en tout, eh bien, dans une classe de 15, il y en a 3 qui dorment sur leur table. 3. Et quand je pose la question, qui est-ce qui dort plus de 6 heures par nuit, il y a 4 mains qui se lèvent sur 15 et il y en a 11 qui disent, nous, on dort 2, 3 heures, 4 heures, ça dépend. Donc, ils sont déjà dans un contexte qu'on va dire qui n'est pas vraiment sain. Alors, parce qu'ils sont sur les consoles, parce qu'ils sont... Mais ce n'est pas sain pour pouvoir faire face à ce qu'ils vont rencontrer et les circonstances qu'ils vont rencontrer. Parce qu'il faut se battre après, mais se battre vraiment. Quand je disais à Lucille en venant que entre les années 75 et où j'étais à l'étranger jusqu'en 85, on quittait un boulot, on en avait un le lendemain matin. Elle me dit « Non, c'est pas... » Ben, je dis « Si !»
Non, si, je te crois, c'est juste non, que mais c'est difficile à se représenter.
Voilà, t'as eu de la peine à réaliser, tu faisais des grands yeux en disant « Non, mais c'est pas possible, ils ont vécu ça. » Et tout d'un coup, elle m'a dit « Ah, ben, je comprends mieux maintenant pourquoi les plus anciens, ils disent « Mais, hey, trouve du boulot !» Ben oui, c'est le cas de dire, c'est la fameuse anecdote de traverser la route. Mmh. Bon, ben là, c'est une anecdote, mais à l'époque, oui, les 30 Glorieuses, il y a eu... toute une période où les gens ne se posaient pas de questions. Ils savaient d'avance qu'ils allaient avoir du job. Alors, c'était juste une question de courage. Donc, il a fallu aussi un changement de paradigme. Et puis maintenant, on a des parents qui ont entre 40 et 50 ans, qui ont des jeunes adolescents. Mais c'est le trip. Parce qu'avec un peu de chance, le parent est en burn-out. Avec un peu de chance, il stresse la mort du diable parce que son gamin, il aime l'école, mais point trop s'en faut. Hein, parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas faits pour le moule. On est d'accord.
C'est normal.
Ouais, voilà, et c'est normal. Et à un moment donné, ben, c'est normal aussi que des jeunes soient... Il y en a un qui nous avait dit, oui, mais mes parents, ils sont tellement au taquet qu'ils finissent par me faire une pression terrifiante. Et ben moi, j'en arrive à plus dormir. Donc, on nous raconte des choses qui sont des fois un petit peu... Alors, de quoi sera fait demain? Alors, tu disais, tu n'as pas, quand tu vois la chaleur, la canicule, tu ne veux pas te projeter. Eh bien, de mon côté, je pensais encore qu'on pouvait réveiller les foules, mais je n'ai pas l'impression et qu'on s'endort un peu dans des problématiques. Quand j'entends que dans le burn-out, maintenant, j'ai des psychologues scolaires, comment on appelle ça, les
conseillers d'orientation
du travail. les psychologues du travail qui disent oui, mais il y a un profil. Alors, ce qui veut dire qu'on est en train de dire bon, la jeune fille, elle a une jupe courte, elle s'est fait violer. Bon, d'accord, il a un profil, il est emmerdé. Ben non, oui, peut-être, mais bon, c'est pas le problème, il n'est pas là. C'est le fameux doigt qui montre la lune. On garde le doigt et la lune, on l'oublie.
Oui, donc, c'est ça, dire il y a un profil, mais en fait, pourquoi? C'est sans se poser la question, se dire ça doit être un défaut de. Inhérent à cette personne, c'est forcément dans sa personnalité. Ou alors, peut-être qu'il y a des concours de circonstances qui font que c'est souvent les mêmes personnes qui finissent en burn-out, même si ce n'est pas forcément vrai, parce que tu m'as quand même dit que c'était très varié au niveau des profils.
C'est très varié.
Même s'il y avait un profil, il devrait y avoir une raison pour laquelle il y a un profil.
Non, alors, ce que je réponds par rapport au profil, quand on me dit « mais c'est quelqu'un qui ne sait pas poser ses limites, c'est quelqu'un qui est très, trop minutieux et tout », d'accord, maintenant, si dans le monde du travail, on n'avait plus des minutieux, plus des gens qui sont capables d'en faire un peu plus que ce qu'ils devraient faire, parce que des fois, il y a un coup de rein à donner, ce qui peut être tout à fait normal, sans être exceptionnel, j'entends. Eh bien, si on n'a plus ce genre, si on n'a que des gens foutistes et des gens qui n'en ont rien à faire et qui se mettent en arrêt pour un oui, pour un non, puis qui ne viennent plus, de quelle société on se construit? S'il faut se détacher comme ça du travail et puis être cynique, ben, ce n'est pas une vie non plus. Donc, alors, on prend l'exemple des médecins. On sait que la santé, ils sont en burn-out. 66% des médecins sont en burn-out. D'accord ? OK. Le personnel soignant. Mais alors, à ce moment-là, on fait quoi ? Eux, on ne leur redonne pas les moyens. Et c'est là qu'ils craquent et qu'ils pètent les plombs. Dans l'éducation, pareil, on en est à passer 60% dans l'éducation. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur donne pas les moyens. Alors après, aller dire que c'est eux qui ont un profil, je trouve ça quand même gonflé. Moi, je trouve ça très gonflé.
Oui, c'est encore typiquement, il faut prendre le problème à sa source plutôt que de dire « Ah, bah tiens, le symptôme, c'est ça, donc ça veut dire que c'est eux qui posent problème. »
Oui, mais ça, c'est une façon pour les institutions, pour les entreprises de se dédouaner.
Oui,
mais c'est quand même, allez, on va dire c'est léger. C'est très léger. Bon, alors, vu que c'est léger, qu'on va arriver bientôt à la fin et qu'on se dit que ça va bientôt être les vacances... Nous, on va retourner à nos petits fruits, nos confitures et tout.
Cueillir des groseilles.
Oui, voilà, en espérant ne pas avoir trop chaud quand on les fera cuire, mais on verra. On envisagera la question. Et puis, Balou, on te souhaite aussi des bonnes vacances.
Eh bien oui, merci beaucoup.
Hein?
Un été bien chargé qui s'annonce.
Voilà, en fait, je suis en train de préparer la chanson que je veux passer. Soyons joyeux un petit peu, parce qu'au milieu de tout ça, qui est un petit peu un marasme un peu triste par rapport à ces jeunes qu'on est en train de sacrifier. Moi, je trouve qu'on les sacrifie. Alors, on...
danse.
Bien.
Alors, on... Alors, on... Alors, on... Dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, et lui dit assis dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine et dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Alors tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zique tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La, la. Alors on chante. La, 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 la. La, 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 la. Alors on chante.
alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben, y'en a encore. Eh ben, y'en a encore.
Ah, chères auditrices et auditeurs. Donc, on va se préparer pour les vacances. On va arrêter de se dire que... De toute façon, on ne peut pas changer grand-chose. Mais là, je voulais mettre un signal d'alarme aux parents. Hein?
Oui.
Dis-moi, Lou.
Non, non, mais...
T'as quelque chose à rajouter?
Eh oui, pour la dernière, en fait, il y a une petite surprise. Alors, on a un ou une invitée surprise au téléphone. C'est bon, t'écoutes.
Je voulais te faire un gros big up parce que malheureusement, j'ai pas pu faire la technique, réaliser cette dernière émission que tu nous proposes pour cette dernière de la saison. Mais voilà, je voulais t'embrasser très, 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 très fort et te remercier de tout mon cœur pour tout ce que tu nous as proposé cette année. Et j'espère encore plein de saisons sur Radio Guimauzo avec toi. Et voilà, je voulais te dire que je t'aime très fort et merci beaucoup pour toutes tes émissions.
Oh, Lia, je suis émuse. Je suis émuse. Je suis émuse. J'ai les poils qui bandent.
Je suis en route pour un gros câlin, mais je voulais surtout pas rater l'occasion de t'embrasser très fort.
T'as un amour, écoute. C'est super gentil de ta part. Parce qu'en fait, effectivement, c'est la dernière émission. Alors, ben, on n'a pas trop chaud, ça va. Et puis, ben, on a continué à parler des jeunes parce qu'on a une petite jeune Lucille avec nous aujourd'hui.
Oui, voilà. Je t'embrasse, Lucille. Oui. J'arrive dans quelques instants dans les studios, de toute façon, pour vous embrasser.
Voilà. Et puis, ben, écoute, vraiment, alors c'est vraiment la surprise, ça fait plaisir. Oh, c'est super. Ouais, moi je suis émuse. Yes, vive les vacances.
je te laisse conclure l'émission et puis j'arrive tout de suite dans les studios pour te faire un câlin en vrai.
D'accord.
Et merci beaucoup encore pour tout ce que tu fais.
Mais merci à toi. Alors moi je tenais à dire merci à Radio Guimauzo, mais merci à Lia particulièrement, à Lou également et à tous ceux qui participent parce que Radio Guimauzo est une radio quand même libre où on a le droit de s'exprimer. Et c'est essentiel et c'est énorme. Voilà. Et je te remercie infiniment pour tout ça.
Gros bisous, Catherine.
Gros bisous. Salut. Voilà, chères auditrices et auditeurs. Ah, vous avez compris que Lia, qui n'était pas dans les studios aujourd'hui, eh bien, elle était là, au bout du fil. Elle m'a mis les larmes aux yeux et c'est une blague entre nous, les poils qui bandent. Une fois, je lui dis, j'ose pas dire ça à la radio. Elle me dit, mais pourquoi ? Ben, pourquoi pas? Non, quand on a de l'émotion, puis que les poils, ils se hérissent comme ça. C'était une humoristique, une humoriste. Je sais plus quel est son nom. Elle fait un sketch avec ses enfants. Il y a Big Mac. Ça vous dit rien?
Non,
ses enfants, ils s'appellent Nuggets, Big Mac, tous des noms comme ça. Puis elle pique une crise parce qu'en fait, son fils, elle en a marre parce que quand elle va à la boulangerie, on dit qu'elle est la maman d'Einstein parce que son fils, il a eu le culot de passer le baccalauréat. Alors, elle ne comprend pas pourquoi. Elle n'est pas du tout dans ce trip-là. Et donc, elle dit, justement, à un moment donné, elle dit « Oh, j'avais tout plein d'émotions, puis j'avais les poils qui bandaient. » Et donc, j'en suis restée avec cette expression complètement nulle. Mais quelquefois, il vaut mieux dire des expressions nulles et rire que pleurer.
Oh que oui.
Oh que oui.
Ah bah c'est bien de rire, hein. Ça sécrète quoi? De la dopamine, hein?
D'ocytocine aussi, non? C'est l'amour qui fait ça.
Dans tous les cas, on en a besoin, donc pourquoi se priver?
On en a besoin, voilà, pourquoi se priver? Donc on se retrouvera à la rentrée, tous ensemble, et puis là, on attaquera d'autres sujets. N'hésitez pas à intervenir sur nos pages Facebook Ralentir pour vivre, Abo et Radio Gemozo. Là, vous pouvez intervenir, nous envoyer des mails. Il y a aussi le site ralentirpourvivre.org où vous pouvez voir alors une brochure en ligne avec les explications des symptômes et autres du burn-out, les fresques du burn-out qu'on a fait avec les fresques qui ont été faites par les personnes qui assistaient à ces soirées. Vous pouvez voir également, vous avez aussi tous les podcasts de cette émission qui sont à contretemps, c'est à vous en direct. Et vous avez aussi les podcasts de témoignages, on en a une trentaine en moyenne, de gens qui ont fait des burn-out ou des presque burn-out ou des deuxièmes burn-out ou Dieu sait quoi, enfin bref, des témoignages, parce que notre but important à l'association est de faire parler du burn-out et de l'épuisement, c'est également donner la parole, parce que pour nous c'est important, c'est vraiment défendre que c'est une maladie de société et non pas une maladie qui est rattachée à l'individu. Donc, c'est défendre l'individu par rapport au doigt qu'on pointe sur lui. Or, que ce doigt n'a pas de raison d'être pointé. C'est la lune qu'il faut regarder, l'organisation du travail actuellement. Et nous sommes vraiment très portés sur de l'information et de la sensibilisation. Je le répète, nous ne faisons pas de soins. Nous avons donc deux médecins au sein de notre association qui ont signé un contrat avec le Conseil de l'Ordre, comme quoi nous ne faisions pas de soins. Par contre, nous faisons essentiellement de l'information et surtout de faire passer le message. Un certain MeToo du burn-out, je dirais, serait nécessaire pour qu'on commence à pouvoir, mener à bien des dédommagements pour pouvoir pousser les entreprises à des dédommagements en cas de burn-out. Je racontais justement l'histoire de Carrefour qui a eu un de ses employés qui s'est suicidé sur le parking suite à une campagne des la meilleure caisse et il ne l'avait pas gagnée. Enfin bref, de 6 mois d'un travail acharné et le gars s'est tiré une balle. Et quand sa femme a poursuivi Carrefour pour des dédommagements, Carrefour a réussi à argumenter que ce monsieur était déjà en burn-out, donc ce n'était pas eux qui étaient fautifs. Donc je trouve, dans ces cas-là, il y a des choses qu'il faut dire, il faut en parler, parce que si on se tait, ça continuera, et puis on ira encore plus loin. Or, on sait que nos enfants sont impliqués dans cette affaire. Nos enfants sont les premiers, je dirais, les premiers acteurs de cette affaire, parce que même si le burn-out touche des gens de tout âge, maintenant, ça commence à contaminer les jeunes. Et là, je dis halte, parlons-en avant que ce ne soit trop tard. Voilà, après ce monologue long et, je l'espère, pas trop ennuyeux pour vous, chères auditrices et auditeurs.
Je l'ai trouvé intéressant, Catherine.
Ah ben, c'est gentil, merci. Eh bien, je vous souhaite à tous des bonnes vacances. Lucille, bon séjour au sein de Ralentir pour vivre.
Merci.
Voilà, et Lou, des bonnes vacances à l'antenne. Malgré tout, vous avez des temps de break maintenant avec l'IA.
Oui, un petit peu moins de bénévoles en ce moment, donc on aura le temps de s'accorder du temps pour beaucoup d'autres tâches qui nous attendent.
Voilà.
Et un peu plus de calme.
C'est très bien. moi, je vous dis à tous, chères auditrices et auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Et puis, on se retrouvera en septembre. En attendant, à bientôt.